suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. À la fin du mois de septembre, à l'occasion du 68e congrès international d'aéronautique qui se tenait sur la côte sud de l'Australie, à Adélaïde, le fondateur de SpaceX, le milliardaire américain Elon Musk, a dévoilé de nouveaux détails de son projet à court terme, 5 ans, d'envoyer des hommes sur Mars avec l'intention, à terme, de coloniser la planète rouge. Une planète de rechange, en somme. À lui seul, ce projet pourrait résumer l'hypothèse de départ du petit essai aussi brillant qu'important que publie ces jours-ci Bruno Latour, l'idée que les riches, les super-riches au moins, ont depuis longtemps déjà, plus d'une vingtaine d'années, pris conscience que la Terre ne suffisait plus à contenir leurs prétentions, leur mode de vie, et qu'ils avaient pris la décision consciente mais secrète de l'abandonner derrière eux, de faire sécession. Où atterrir ? C'est le titre de cet essai, devient alors la question politique majeure, et pas seulement pour ceux qui auront l'envie et les moyens de viser le sol de Mars, mais aussi pour ceux, comme Bruno Latour, qui se voient bien se poser tranquillement sur le sol du vieux continent. Bonjour Bruno Latour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. Vous êtes professeur émérite associé au Media Lab à Sciences Po et vous publiez donc aux éditions La Découverte « Où atterrir, comment s'orienter en politique ». Un livre dont on va parler dans la demi-heure qui ouvre cette émission et un livre dont on parlera dans la deuxième partie également avec quelqu'un que vous connaissez bien parce que vous travaillez avec lui depuis quelques années maintenant, c'est Philippe Ken. Philippe Ken, oui, qui est metteur en scène et qui dirige le théâtre des Amandiers à Nanterre, un théâtre où vous avez installé un projet qui vous tient à cœur, qui est une école des arts politiques, SPIP, et un projet où vous avez développé depuis quelques années maintenant des manières de procéder qui se situent au croisement entre les sciences sociales, la politique et l'art, on peut le dire comme ça. Mais je voudrais qu'on, évidemment, on commence par se poser la question de savoir où atterrir, puisque c'est le titre de ce petit livre. Un livre écrit dans une certaine actualité, dans une certaine urgence, dont on peut dire que le point de départ est, à certains égards, l'élection de Donald Trump, mais aussi peut-être le vote quelques mois avant des Britanniques décidant de quitter l'Europe. Deux événements qui vous semblent à la fois très importants et avoir été mal compris. Et pour essayer de comprendre ces deux événements, vous proposez à vos lecteurs, Bruno Latour, de revenir un petit peu en arrière et de saisir des transformations profondes qui affectent la politique depuis, on va dire, les années 80. Il y a là quelque chose de très important qui se passe. Et vous faites une hypothèse que je citais en démarrant l'émission, l'hypothèse qu'un certain nombre de gens, peu nombreux au départ, sans doute, ont pris conscience de la gravité, au fond, des questions climatiques. Et pourtant, leur comportement ne nous laisse pas apparaître cette prise de conscience. Au contraire, ils le masquent. Mais en quoi cette hypothèse, d'abord, j'aimerais que vous la reformuliez, peut-être plus précisément, et en quoi elle vous paraît heuristique, elle vous paraît nous permettre de comprendre ce qui nous arrive depuis 30 ans, Bruno Latour?
C'est un livre thérapeutique, en fait, ou de psychosocial, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Tout le monde parle maintenant du retour du populisme et d'une espèce de régression vers des territoires nationaux ou ethniques, en se plaignant de cette régression. Et évidemment, c'est ce qu'on dit des électeurs de Trump, et en Europe, de tous les électeurs qui votent, disons, du mauvais côté. Et inversement, on se doute quand même que du côté de la globalisation, il y a un certain nombre de problèmes. Et donc, ce qui est, j'essaie de comprendre, c'est qu'il y a un éléphant dans la pièce, un gros éléphant, qui est la question, disons, pour le dire vite, écologique, mais qui est bien plus large que écologique, et que les horizons qu'on nous avait donnés jusqu'ici dans la perspective de la modernisation, en laissant de côté, évidemment, les hyper-modernes dont vous parliez au début, c'est-à-dire le rêve d'une espèce d'émancipation, mais caricatural, c'est une espèce de futurisme caricature, qui est un élément du symptôme de la désorientation générale. Donc tout le monde est en train de tourner sur ce puzzle, comment ça se fait que les gens réagissent comme ça, comment ça se fait que les partis sociaux-démocrates disparaissent un peu partout, etc., etc. Et même si je suis pas politiste, ça fait longtemps que je m'intéresse à la question, disons, écologique, et du déni de la situation écologique, du déni actif des grandes sociétés américaines, mais aussi du déni passif, si j'ose dire, qui est notre indifférence générale et notre impuissance. Donc, ça rend fou, cette situation-là. Ça rend fou deux fois. C'est-à-dire, d'une part, il y a une énorme transformation de la Terre et une espèce d'incompréhension du lien entre Terre et l'horizon qu'on avait avant, là où on allait atterrir, si j'ose dire. On était supposé se globaliser et se moderniser. On sait que c'est pas possible. Donc ça, déjà, ça rend fou. Et ce qui rend fou, deuxièmement, c'est le déni. Donc, mon hypothèse, elle est en fait assez simple. C'est de dire, mais vous avez tous les jours, vous entendez hier encore dans le monde, 80% d'insectes en moins, la veille, c'est, chaque fois c'est des catastrophes. Et nous n'avons pas l'équipement mental pour absorber ces gens. Qu'est-ce que ça fait aux gens, ça? Je pense que la démoralisation, une espèce de dislocation, de désorientation actuelle, cette espèce de dissonance cognitive, vous entendez tous les jours à la radio ou à la télévision, dans les journaux, qu'il n'y a pas de terre correspondant à vos rêves, et en même temps, on ne vous dit pas comment faire, et on ne vous dit pas, non, cette modernisation, elle ne va jamais avoir de lieu où apparaître. Et donc, je fais une hypothèse qui est quand même assez simple, ce retour général de la question du sol, et la question de la terre, et la question de l'appartenance et des identités, elle a quand même un rapport assez direct avec la question écologique. Donc je dis, la question écologique, ou le déni de la question climatique, plus exactement, organise toute la politique depuis 30 ans. Ensuite, le reste, c'est des hypothèses que je n'ai aucun moyen de prouver, mais qui sont des indications, disons, du fait qu'un certain nombre de gens ont... Dénier, c'est pas pareil qu'être sceptique, hein. Dénier, c'est actif. Je sais qu'il y a une transformation énorme de la situation terrestre, et on le sait depuis les années 80, et je vais agir en fonction du déni de cette situation. Parce que si je la dis, si je l'exprime publiquement, ça veut dire qu'il faut changer complètement la définition même de ce que c'est que la modernisation.
Alors, pour le dire clairement, cette hypothèse, c'est l'idée selon laquelle, donc, c'est un certain nombre de gens qui appartiennent... Alors, on dit les élites, enfin bon...
Oui, le mot n'est pas assez précis, mais enfin...
Voilà, mais...
C'est le mot qu'on utilise pour dénoncer la situation actuelle, donc c'est pour ça que j'ai réutilisé.
Un certain nombre de gens prennent conscience dans les années 80, progressivement, que, au fond, ce qui constituait l'horizon de la modernisation, à savoir le partage de plus en plus large par les habitants de la planète d'un certain mode de vie, parce que c'est bien ça qui a été défendu,
oui,
y compris par des,
voilà, général,
par des présidents américains. C'est-à-dire, pas de compromis sur ce mode de vie qu'il s'agit de
mais
partager.
Mais avant, il n'y a pas de compromis, mais on va le partager avec les 8 milliards de gens.
Voilà, et là, on réalise que on ne peut pas techniquement, enfin, je veux dire, les données physiques de la planète ne permettent pas ce partage. Donc, en gros, on peut essayer de sauver le plus de temps possible, parce qu'il y a la question... de la chronologie aussi, c'est-à-dire que ces gens pensent à eux, à la fin de leur vie, éventuellement à leurs enfants. Je ne suis pas sûr qu'ils envisagent même peut-être leurs petits-enfants, mais au-delà, pas vraiment. Donc l'idée, c'est on sauve notre mode de vie, au moins pour une période courte.
Oui. Ça, je pense que ça atteint très profondément psychiquement, ça, cette situation-là. De vous dire, alors que tous les scientifiques, au contraire, que je connais, que je lis, ils vous parlent toujours de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Mais imaginez les gens qui dénient cette situation. Justement, c'est le point que vous faites est très important. C'est quoi leur horizon temporel? C'est-à-dire, je m'arrête au moment où j'ai des enfants, ensuite, mais les enfants, les petits-enfants, non, ça c'est... Vous voyez, c'est une situation qui est très instable et qui rend, je pense, très profondément malheureux. C'est pour ça que mon hypothèse politique, diplomatique, c'est de dire, attention, tous ces gens qui se sentent en situation de désarroi, voire de déréliction, ce sont nos alliés politiques aussi. Donc, c'est pas la peine de parler de populisme, c'est pas la peine de dire... les gens régressent, ils n'ont plus les capacités intellectuelles de viser la modernisation, etc. Et on voit très bien le mouvement hyper-moderne, qui est du futurisme passé, en quelque sorte, une espèce de reconstitution du futurisme des années du début du siècle dernier. Et de l'autre côté, le désir, mais qui a des formes assez étranges, de revenir à des territoires, et disons la vieille terre presque maurassienne ou barétienne, le retour d'une forme de politique qu'on croyait avoir disparu. Et puis en même temps, il y a une multiplicité d'expériences dans tous les côtés qui ont déjà complètement absorbé le fait qu'il fallait atterrir quelque part et que là où on atterrissait, c'était pas le globe. Mais on n'a jamais expliqué publiquement, c'est là où il y a une espèce d'hypothèse évidemment un peu forte et qui est forcée que je fais, mais c'est ça, faire de la politique, faire un texte politique, c'est avancer un tout petit peu sur les hypothèses qu'on ne peut pas prouver analytiquement, naturellement, qui est de dire... on ne vous a jamais dit, la modernisation, elle est terminée dans sa forme et dans le réalisme. Elle n'a pas de réalisme terrestre. Donc, c'est quoi maintenant? C'est quoi le réalisme terrestre des conditions dans lesquelles nous espérons vivre dans les 30 ou 50 prochaines années.
Peut-être un indice qui viendrait alimenter votre hypothèse est à rechercher du côté du fait que les travaux de l'Éric Morin, par exemple, avaient montré que si on parle de ghetto, vaut mieux parler de ghetto de riches. En fait, c'est davantage une réalité sociale, les ghettos de riches, que les ghettos pauvres. Alors, ça prend des formes caricaturales, et vous les citez parfois, des gated communities, hein, c'est lotissement pour riches, complètement barricadé, qu'on avait vu évidemment en Afrique du Sud, mais enfin qu'on a vu se développer aux États-Unis et puis un peu partout. Mais on a vu aussi des gated communities, cette fois chez les fameux rurbains dont on n'est pas sûr qu'ils existent, mais enfin en tous les cas chez ce que certains appellent les petits blancs qui vont se refermer, pour qui l'enclos autour de la maison ou du pavillon devient aussi extrêmement importante oui. dans cette
et je pense qu'il faut,
configuration.
Il faut qu'on accepte de partager le sentiment de désarroi même avec ces gens-là. C'est-à-dire que cette situation, un peu d'étouffement en même temps, parce que c'était, il faut bien se rappeler que l'horizon de la modernisation, en gros, on s'américanisera tous en fin de compte comme les Américains, ce qui suppose 5 terres, on en a qu'une pour reprendre un calcul célèbre, ça donnait quand même une espèce d'horizon d'émancipation qui était partagée d'ailleurs à gauche comme à droite. Et donc l'impression inverse, elle est très étouffante. Mais comme on ne dit pas explicitement et qu'on ne décrit en rien ce que j'appelle le troisième attracteur, c'est-à-dire ce sol terrestre sur lequel il va bien falloir qu'on finisse par atterrir et qui a des tas de propriétés elles-mêmes très positives, c'est une ouverture, c'est pas seulement une fermeture, mais c'est tout le problème artistique dont on parlera plus tard. C'est un vrai défi d'émotion, d'affect, en même temps d'être un défi scientifique absolument colossal. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle Terre sur laquelle on est supposé, qu'on essaie de supposer connaître et sur laquelle on arrive? C'est un défi économique qui est le retour des communs dans toute la gauche, l'ancienne gauche, qui réapprend qu'est-ce que c'est que la notion de commun. C'est un défi pour les féministes, c'est un défi général. En même temps, mon livre est positif, c'est bon, bah oui, bah maintenant la situation d'orientation politique redevient profondément intéressante, et en partie grâce à M. Trump, parce que lui, comme il nous a montré, en quelque sorte, exactement l'inverse de la voie qu'il faut faire, et qu'il a dit clairement, la question climatique, c'est la question géopolitique essentielle, je sors des accords, et je me fiche complètement de ce qui arrive à la planète. Donc du coup, par contre-coup, on se dit, ah ben oui, ça y est, maintenant, enfin, on sait ce que tout le monde savait du côté des scientifiques, mais qui était toujours nié, que la question climatique est la question géopolitique par excellence.
Alors on reviendra à Trump comme anti-boussole en quelque sorte, qui nous permet de nous orienter. Et en regardant Trump, on peut peut-être deviner à peu près où il faut atterrir. Mais avant de revenir à ça, j'aimerais reposer une question qui n'est pas nouvelle pour vous. Vous avez écrit là-dessus, vous avez écrit sur un mystère au fond. Pourquoi le mouvement écologique n'a pas émergé? Pourquoi il est dans cet état et pas que en France, enfin partout? Pourquoi il ne s'est pas transformé en un mouvement politique fort? Parce que les spécialistes de sciences politiques qui ont réfléchi sur les clivages depuis longtemps ont bien montré qu'historiquement, un certain nombre de clivages s'étaient succédés. Alors d'abord un clivage qui opposait les monarchistes aux républicains, et puis un clivage qui a fait émerger les libéraux, et puis après un clivage autour de la question sociale qui a fait émerger les partis socialistes. Et puis il aurait dû y avoir, après ça, le dernier clivage qui aurait dû restructurer tout le monde politique, qui est ce clivage écologique. Alors, Serge Audier, dans un livre récent que vous citez d'ailleurs, a bien montré la longue histoire de cette pensée. Et comment cette pensée n'a-t-elle pas pu se traduire et devenir ce clivage? Comment vous l'expliquez, vous, Bruno Latour?
Ça fait maintenant longtemps que j'essaie, il y a une multiplicité. Il y en a un qui est évidemment la définition même de ce qu'on appelle social. Je travaillais pendant 40 ans sur cette affaire, c'est-à-dire la définition du social étant définie uniquement des relations entre les humains, lorsqu'il a fallu rajouter tous les autres non-humains, le pétrole, les champignons, les loups, etc., les taupes, dont on parlera tout à l'heure, etc., on était très peu armés. Et la sociologie a démontré, jusqu'à aujourd'hui, une admirable indifférence à l'ouverture de la question sociale élargie, disons. Donc ça n'aidait pas. Il y a des raisons religieuses que j'ai explorées dans Face à Gaïa, évidemment, qui sont très très importantes, du lien à le mépris de la matière et toute une série de traditions chrétiennes ou gnostiques, peu importe, qui tombe dessus. Et puis, la grosse différence, c'est la différence d'économie. L'économie ne se prêtait pas comme discipline, admirablement, à l'enregistrement de tous les autres animés qui composaient la planète. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce qui est assez nouveau pour moi, c'est qu'il y a aussi une raison scientifique. Les sciences qu'on imaginait au XXe siècle, c'était des sciences de l'univers qui allaient par conséquence expliquer tout le reste. Alors que ces sciences de la Terre, c'est celles que j'étudie un peu en ce moment avec mes collègues qui sont plutôt des géologues ou biochimistes, etc. C'est des sciences qui sont pas du tout comme on l'imaginait au XXe siècle. C'est plutôt de l'histoire naturelle, comme on l'imaginait plutôt du temps de Humboldt. En fait, il y a un retour à Darwin et à Humboldt au début du 19e siècle. C'est-à-dire une compréhension de la complexité, de la prégnance, de l'épaisseur, de la difficulté à comprendre la Terre. Et pas du tout simplement, si j'ose dire, l'univers. Et je pense qu'il faut faire maintenant la différence assez précise dans les sciences naturelles entre celle de l'univers et celle de la Terre. Elles n'entraînent pas la même épistémologie, elles n'entraînent pas la même politique. Et d'ailleurs, donc il y a une multitude de raisons.
Et d'ailleurs, vous dites aussi que ça n'a plus aucun sens de distinguer la géographie physique de la géographie humaine.
Non, mais ça organise toujours l'université française et l'anthropologie, je ne parle pas d'anthropologie physique et anthropologie sociale, parce que là, ça l'organise complètement. Il n'y a même plus pratiquement d'anthropologie physique dans les départements d'anthropologie. Et donc, il y a des tas de raisons. Mais la raison principale, quand même, c'est que le moment où s'est solidifié, ce que montre très bien Audier d'ailleurs, le moment où s'est solidifié la question sous la forme des partis socialistes après la guerre, c'est précisément le moment où on était supposé en avoir fini avec un certain idée du néolibéralisme, tout a basculé. Et la question écologique est arrivée en postiche, en quelque sorte, en surplus. Et de la faute, je pense, tout à fait partagée entre les écologistes qui s'intéressaient à la nature, terme qui était aussi peu propre à être politisé que possible, et du côté des mouvements sociaux, disons, classiques, disons la lutte des classes au sens défini dans les années 50, qui, d'ailleurs, je le rappelle, avait aussi quand même pas mal de peine à absorber la question féminine, la question raciale, la question coloniale. Et ces questions, au fond, sont toutes des dérivées de la question terrestre. Donc, il y a une espèce d'élimination, juste au creux, là, au moment, entre les années 50 et 70, où l'écologie montait comme grande question politique et, en même temps, bizarrement, disparaissait comme question sociale. Donc, l'association s'est pas faite. Et donc, maintenant, il n'y a plus de parti vert, quasiment, en tout cas en France. Ce qui n'est pas forcément mauvais, parce qu'il ne s'agit pas forcément de recréer un parti. Ce n'est pas forcément un truc pour les partis, d'ailleurs. L'atterrissage, c'est une question qui doit être laissée à beaucoup plus de choses et d'institutions que les partis, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la transition ne s'est pas faite. Il y a un chaînon manquant.
L'atterrissage, il est complexe, il va être complexe, parce qu'on est tous dans cet avion. Et vous faites la référence, qui est celui qui a mis en scène Clint Eastwood dans Sully. C'est-à-dire un avion auquel les tours de contrôle disent qu'il ne peut pas atterrir là où il devait arriver. Ça, c'est ce que vous avez dit à propos de... Il nous faudrait 5 planètes au lieu d'une. En gros, là, c'est pas possible. On peut pas atterrir là où on devait aller. Là, vers l'américanisation globalisée, c'est fermé. Et faire demi-tour et atterrir là où on a décollé...
C'est trop petit. La Terre est trop petite. Elle n'est pas assez grande pour tenir les 9 milliards d'humains à la taille de l'américanisation Way of Life. Donc c'est ce problème de temps.
Donc où atterrir ? Où atterrir, c'est le titre de ce livre. Et pour trouver où atterrir, pour s'orienter, comme vous dites, en politique, c'est là que nous arrive, aussi paradoxal que ça puisse être, ce cadeau qu'est l'élection de Trump. Parce qu'il suffit d'écouter Trump pour aller dans la direction inverse, quoi.
Oui, c'est comme une boussole. Une boussole, ça indique le nord, mais ça indique le sud. Lui, il indique le sud. Donc, il définit un certain horizon, et qui est, encore une fois, de dire la question de l'attachement d'une civilisation comme américaine à son sol n'a plus d'importance pour nous. Donc, c'est pour ça que j'appelle le hors-sol. Personne n'avait jamais osé, quand même.
C'est pour ça que c'est intéressant de le rapprocher de ce projet caricatural d'Elon Musk.
C'est complètement la même chose.
Ouais. Parce que Elon Musk, de fait, il veut aller sur une autre planète. Donc, d'une certaine façon, Trump, il est sur une autre planète. Enfin, de façon imagée, il est sur une autre planète.
Oui, mais il veut aussi, contrairement à Musk et les autres, faire aussi le retour au passé. Donc, c'est une innovation qui est très importante, celle de Trump. Il arrive à combiner deux choses complètement impossibles. Une modernisation à outrance, ou plutôt une espèce de retour au capitalisme du début du XXe siècle, et en même temps un retour au passé le plus traditionnel et le plus ethniquement défini, le plus raciste, pour le dire simplement. Donc ça, c'est une liaison qui n'est pas celle des futuristes. C'est pour ça que mon petit schéma est extrêmement simple, et le mot triangulation en sciences politiques a un autre sens, mais j'essaie de trianguler grâce à ces positions qui sont tout le monde est en train de discuter de ces choses, retourner, je ne sais pas qu'on parle de la Hongrie, ou bien de la Catalogne, tout le monde est en train de se dire, moi alors, je reviens à quoi? Et là, la question, comme dans le film, avec l'avion qui atterrit, on regarde assez attentivement par la fenêtre, quand on parle au hublot, disons. Tout le monde est penché sur le hublot, dire où est-ce qu'on va atterrir.
Alors, une des conséquences politiques premières, c'est de constater que ce qui structure le débat politique depuis au moins la Révolution française, c'est-à-dire le clivage droite-gauche, et qui reste extraordinairement fort dans les imaginaires, enfin, toutes les enquêtes, contrairement à ce qu'on entend par ailleurs dans les médias, toutes les enquêtes montrent que les gens demeurent très attachés, en tous les cas, c'est ce qui leur permet de s'orienter. Et ce clivage-là n'a plus de sens pour rechercher cet endroit où atterrir, donc il faut, d'une certaine façon, se débarrasser de ce clivage. Mais pas tout à fait, c'est non, pas votre programme, s'en débarrasser comme le fait Emmanuel Macron, par exemple.
Non, c'est pas ça. D'abord, les études disent simultanément que tout le monde y est très attaché, mais quand on demande à quoi, quel est le contenu de cette différence, les divergences sont infinies. C'est à peu près impossible de définir maintenant les gens de gauche ou de droite. Par contre, tout le monde est attaché au label. Donc je propose simplement de dire, ok, appelons maintenant gauche la direction qui est d'atterrir sur ce sol, ce que j'appelle le terrestre, et appelons droite, ou bien si on veut réactionnaire, ou peu importe, le fait de rester dans l'ancien clivage. C'est une façon un peu rhétorique, disons, de garder les affects au sens le plus superficiel qui disent, bah, moi je suis de gauche, je veux pas changer. Mais si on dit à des gens qui sont de gauche ou qui sont de droite, oui, mais décrivez-moi maintenant quels sont les intérêts réels et le paysage réel auquel vous êtes attaché, là on a un immense silence. Parce que on a transformé les positions politiques en des opinions, ou en l'expression de valeurs, ou en l'expression de blessures insurmontables qu'il faut absolument arriver à et qui justifient toutes les positions. Mais on n'a pas la politique, c'est pas ça. La politique, c'est de décrire un monde dans lequel on a des intérêts contradictoires. Donc, je crois que là, il faut garder, si on veut, superficiellement gauche-droite, parce que ça repose et ça permet de montrer où sont les gens, mais il faut exiger ensuite, d'accord, de gauche, mais de quel monde ? Sur quelle ville, sur quel type d'alimentation, sur quel type de nourriture, sur quel type d'habillage, sur quel type d'éducation, etc. Et c'est là où le basculement, que je ne peux pas évidemment faire moi-même, c'est ridicule, mais de dire, on sait analyser en termes de système de production, on ne sait pas analyser en termes, ce que j'appelle, de système d'engendrement. Et lorsqu'on passe à cette autre question, on s'aperçoit qu'on est très démunis pour décrire le monde dans lequel on est. Et qui sont nos intérêts, quels sont nos territoires, quels sont nos amis, quels sont nos opposants, et de quoi on dépend. Il me semble que ça permettrait de recharger, si on pourrait garder, si vous voulez, l'opposition classique droite-gauche, mais on la rechargerait. Et ça, c'est d'ailleurs aussi bien vrai des artistes que des scientifiques, des citoyens et des activistes. C'est un programme qui doit être évidemment collaboratif.
On va venir au volet artistique, la manière dont les œuvres d'art ou les projets collaboratifs peuvent contribuer à définir, à donner de la substance, au fond, à décrire ce qui nous pose problème. Mais avant ça, Bruno Latour, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect des choses, sur la manière que vous avez de rendre possible de penser à la fois le local et le global. Parce qu'il ne s'agit pas... évidemment, ça, c'est les pôles qui étaient opposés autrefois.
Oui, local, global, c'est vraiment un effet de la modernisation. Parce que, enfin, aussi de la cartographie, c'est-à-dire aussi de l'outil qu'on utilise pour se repérer, qui est un gros problème scientifique. Mais on voit bien que il ne s'agit en rien d'un retour au local, parce que ni l'État-nation, ni le petit village, évidemment, ne contient, et ça, c'est la révolution au sens propre, la révolution écologique, les rivières, l'air, les animaux, les épidémies, l'alimentation, rien ne tient dans un petit carré local. Ça, c'est une vieille tradition, d'ailleurs, de la pensée écologique, qu'il faut remettre en cause le local et le global. Mais la solution est souvent de dire, il faut penser aussi au niveau global, et ce niveau global, tout se tient, et on est en quelque sorte pris dans une sorte d'énorme, avec la version, sympathique, on est tous sur la même terre, et on a les mêmes problèmes, etc. C'est pas vrai. On est sur la même terre, mais on n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes ennemis, on n'a pas les mêmes fronts. Et c'est la description de ces fronts qui sont évidemment étendus aux humains et très largement aussi aux non-humains, des insectes dont je parlais, ils font partie de ces fronts. Nous gagnons là contre eux une guerre qui nous ruine nous aussi. C'est tous ces paysages et toutes ces lignes de front qu'il faut arriver à décrire. Et ça tient ni dans le local ni dans le global. Pas plus que d'ailleurs l'individu et l'État. Et c'est le même problème d'ailleurs. L'un est une projection politique, l'autre est une projection cartographique du même problème. Là, on est un peu prisonnier de Google Earth. Avec Google Earth, on croit que le global existe vraiment. Et non, le global, c'est un minuscule réseau avec des énormes ordinateurs qui vous envoient des données par l'intermédiaire de Google. Ça ne vous donne pas une pensée globale. Et donc, ce que j'essaie de distinguer, c'est la globalisation plus et la globalisation moins. Je pense que lutter contre la globalisation maintenant, c'est devenu très ambigu. Parce que ce qu'on appelle globalisation, c'est une diminution plutôt du nombre de variétés au sens propre biologique, mais aussi au sens culturel.
Une sorte d'homogénéisation.
Oui, une provincialisation même, je dirais. Les professeurs ont vécu ça dans les dernières années par la simplification extraordinaire de leur mode d'évaluation. Voilà. C'est à la fois globalisé et c'est en même temps une provincialisation extraordinaire. C'est une toute petite province. J'ai rencontré à Shanghai le monsieur qui avait inventé ce ridicule principe de classement des universités. Je lui ai serré la main et je lui ai dit « Mais vous nous avez pourri la vie ». dans le monde entier. Il était dans un petit bureau à Shanghai. Ça m'a beaucoup amusé. C'est ça, le local global. Le global est attaqué de partout par des tout petits lieux. Et ça, ça ne tient pas dans la distinction locale-globale.
Alors, ce que vous montrez aussi dans ce livre bref, dense, extraordinairement important politiquement, je pense, c'est que il faut penser ensemble toutes ces questions qui ont tendance à être séparées, c'est-à-dire la question de la mondialisation, vous venez d'en parler, mais aussi la question des inégalités et aussi la question de l'identité. On ne comprend rien à chacun de ces grands dossiers si on ne les met pas en relation.
Je pense que c'est l'hypothèse, c'est que c'est le même phénomène. Et il est le symptôme, c'est la question des migrations qui est devenue le grand organisateur politique, mais qui est, comme disent les scientifiques, un proxy, une approximation de la question de cet éléphant dans la pièce dont je parlais, c'est-à-dire la question de la mutation écologique. Donc oui, je pense que c'est là où il y a une espèce de cécité des mouvements sociaux dans les années 60-70. C'est un moment précisément très difficile pour dans l'histoire de la gauche. Ce qu'on appelle le passage ensuite au l'acceptation par les socialistes du libéralisme, disons, du néolibéralisme exactement, qui a caché le lien étroit entre l'injustice et la transformation de la situation terrestre. Il y a eu un virage qui n'a pas été pris. Il n'est pas trop tard, mais la situation est bien pire que dans les années 70. Elle est pire au sens de la transformation de la planète.
Alors, il n'est pas trop tard, mais on va avoir besoin de toutes les forces, et notamment de celles des artistes. C'est ce dont on parle dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera après un extrait du nouvel album de King Krul, alias Archie Marshall, ce jeune prodige britannique. Video. She asked me in detail how to get to where I'm from, but I told her it won't work, 'cause she needs to be raised in dark. I saw some crimes when I was young, and now my brain is gone. Haven't found the right size sponge to run through all its rungs. I put my trust in many things, but now I know that's dumb. So I don't trust anyone, only get along with some. Saw that girl again one time, and now I know it's done. And my eyes were so forlorn, but her eyes were so forlorn. I said, hey, where you going with my gun? So I follow where she's gone. All my brain is for her trunk, changing lipstick in my lungs. Hear her screaming all over. I said, baby, it's your time. She keeps on. It's one of the people. She gets torn. Dust and earthly bust in a capsule on my tongue. And I think of what we've done and sink into where she sunk. Now upon my mantle piece, she has no legs to run. Still a trophy I ain't won in a ceramic pot for one. She scatters just like one of the people.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Où atterrir, c'est le titre de l'essai Bruno Latour, comment s'orienter en politique, il paraît aux éditions La Découverte, et on continue d'en parler et on élargit le cercle avec Philippe Ken. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Ken, vous êtes metteur en scène, vous dirigez le théâtre des Amandiers, et comme je le rappelais au début de l'émission, vous avez accueilli dans ce théâtre depuis maintenant deux saisons, je crois, Bruno Latour et un certain nombre de gens qui gravitent autour de Bruno Latour, qu'ils soient artistes ou qu'ils soient chercheurs, pour des projets. Alors c'est notamment le SPIP, cette école des arts politiques, qui a trouvé refuge en quelque sorte dans votre théâtre, projet essentiel qui met en relation les artistes et les scientifiques. Et puis c'est aussi ce théâtre des négociations dont nous avions parlé ici à la suite dans les idées avec Bruno Latour et Frédéric Aïtouati, qui travaillait et faisait travailler les étudiants dans des formes artistiques autour de cette fameuse négociation autour du climat comme une négociation parallèle. Donc, moi, j'aimerais, peut-être pour enclencher ce dialogue entre vous deux, que vous nous disiez comment vous vous sentez en quelque sorte requis, Philippe Ken, puisque Bruno Latour l'a dit, l'a répété, on a besoin de toutes les forces pour, d'abord pour identifier l'endroit où on va atterrir, pour substantifier un petit peu tout ça, pour décrire, pour faire tout ce travail-là. Comment vous, comme artiste, vous vous situez?
Oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé là du lien au théâtre et de l'invitation à Bruno et ce groupe d'étudiants, de pensionnaires, de résidents, comme on les appelle depuis 4 saisons. C'est la 4e année qui commence. Et ça me paraît évident, comme artiste, hein, c'est la source d'inspiration de la façon de penser de Bruno et d'autres. Je dirais une nourriture aussi dramaturgique au sens propre pour des gens de fiction que nous sommes, parce que c'est beaucoup plus modeste et on prétend pas à sauver le monde. Mais du coup, le compagnonnage de cette cellule et du SPIP qui nous a donc effectivement fait organiser cette simulation, pré-simulation du sommet climatique de la COP21, plus exactement, donc c'était en 2015.
Mai 2015,
où 200 étudiants des arts politiques ont joué les délégations, qui a été aussi une forme de spectacle très ambitieux, au-delà d'être un sujet politique important. Et c'était aussi comment la fiction, comment la simulation peut apporter des idées ou des hypothèses à la véritable négociation. Et c'est pour ça, sur un scénario, j'emploie aussi des termes de théâtre ou de cinéma, le scénario de Bruno, c'était pour aboutir à des solutions, essayons d'autres formats, d'autres modes. Donc mélangeons à la table des États, des non-humains, des délégations qui représentaient les forêts, des délégations qui représentaient les pierres ou les dauphins. Et ça me parle très fortement. Donc au Théâtre des Amandiers à Nanterre, effectivement, depuis le début, il y a beaucoup d'autres ouvertures sur le monde des sciences ou de la philosophie. Et ça me paraît évident que ça nourrit aussi le théâtre.
Mais Bruno Latour, il n'y a pas d'un côté les sciences sociales, de l'autre l'art. Vous avez des problèmes
non,
qui...
Non, les taupes de... Voilà. Les taupes,
Les taupes de Philippe Ken.
Les taupes de Philippe Ken, elles étaient non seulement un symptôme d'une transformation assez profonde de l'attention des artistes au sol et au sous-sol, mais aussi l'origine d'un spectacle intellectuel, je ne sais pas comment dire, un conférence-spectacle que j'ai fait avec Frédéric Aitouati, qui s'appelle Inside. Donc, c'est, dans la même idée, c'est pas du tout, c'est un échange de bons procédés, mais c'est aussi des interférences. Les taupes, parce qu'elles matérialisaient cette sortie, justement, des êtres souterrains. En plus, la vieille taupe est un grand thème socialiste, marxiste, comme on le sait. C'était aussi une source d'inspiration pour des travaux comme l'exposition que j'ai faite à ZKM en Allemagne, aussi bien que pour ce qu'on fait avec nos étudiants. Donc c'est des médiums différents. On ne peut pas dire qu'il y a l'art d'un côté et puis la philosophie de l'autre, mais c'est des médiums. Et le fait de travailler dans un théâtre comme celui des Amandiers et d'être résident, ça oblige les philosophes ou les sciences sociales à voir que c'est un médium, ce qu'ils font. Ils peuvent être bons ou mauvais, mais c'est un médium. C'est pas l'explication ou le métalangage qui analyse et qui domine les arts.
Et d'ailleurs, Philippe Ken, la forme de Où atterrir, c'est un essai à la fois dans une forme la plus classique de l'essai, un essai politique par ailleurs qui se présente comme tel, mais il y a des enjeux qui sont des enjeux de représentation, de fiction, de visualisation. Il y a le recours à des illustrations qui permettent de mieux donner à voir des choses qui sont abstraites. Donc la question de l'écriture, j'imagine, elle se pose. On va demander à Bruno Latour tout à l'heure comment elle se pose pour lui, mais comme artiste, comment vous recevez l'utilisation du médium classique livre tel qu'il est pratiqué avec Où atterrir?
Non, c'est une nourriture formidable, d'ailleurs bien au-delà du titre, la notion d'essayer, de tenter des hypothèses, c'est aussi ce qui nous caractérise, artistes ou poètes, rechercher, ce qu'on appelle répéter, les répétitions sont un moment de la recherche théâtrale ou artistique pour aboutir à une forme. Je suis aussi très inspiré de ce titre que Bruno... de Où atterrir, puisque j'ai en gestation un nouveau spectacle en 2018 qui démarre justement dans un avion qui traverse une tempête, parce que on choisit jamais de traverser une tempête. C'est un mélange entre la véritable catastrophe ou en tout cas l'accident de la nature qui vous rend parfois naufragé ou réfugié. Et en général, lorsqu'on se crache sur une île déserte, on ne choisit pas les collègues avec lesquels on se retrouve sur un caillou. Donc ça sera le pitch, en tout cas le début d'un nouveau spectacle.
C'est la situation dans laquelle vous allez placer les comédiens qui vont travailler avec vous.
Oui, c'est-à-dire que c'est d'une autre façon de
dire. Ils vont encore souffrir beaucoup, parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert d'être des taupes.
Ils vont sûrement souffrir, mais en même temps, ils vont de nouveau devoir apprendre à être ensemble, parce que c'est ce qui traverse sans doute mon théâtre depuis 15 ans, c'est-à-dire la mise en scène de communautés, qu'elles soient des taupes ou des astronautes qui tentaient de sauver la couche d'ozone en 2006, un spectacle qui s'appelait D'après Nature, ou prochainement des rescapés sur une île déserte, avec aussi toute l'imagerie et les textes et les romans qui vont sûrement tourner autour de cette question, qui seront traversés, puisque c'est des sujets aussi du huis clos qui me passionnent. La scène de théâtre est un endroit un peu comme un vivarium, un terrarium, où on a un concentré d'humanité. On tente aussi des hypothèses de mettre des gens ensemble. C'est un art, en tout cas, où on fait croire à ce que des gens arrivent à trouver des solutions, ne serait-ce que le temps d'un spectacle.
Mais c'est comme ça que vous les écrivez, en quelque sorte, vos spectacles ?
Oui, et puis c'est pour ça que c'est très important pour nous, dans un théâtre... que j'ai la chance d'occuper provisoirement, puisqu'on est dans des établissements publics, donc j'ai une sorte de mission comme ça de 4 ans, comme si on m'envoyait sur une base spatiale, hein. C'est souvent une image que j'utilise. Un théâtre comme Nanterre, c'est aussi être coincé pour une expérience spatiale avec des gens qu'on n'a pas toujours choisi, une équipe importante et pour une mission publique. Donc,
qui n'est pas hors sol pour le coup.
Non, mais on pourrait. Je pense que la vie d'un théâtre, ça pourrait être une très bonne expérience d'entraînement. C'est quasiment l'équivalent d'une capsule, comme des expériences sont menées parfois de gens qui ne décollent jamais. Je sais qu'il y a une très belle histoire traitée par un artiste, Bertrand Dezoteux, d'une expérience de gens qui ne sont jamais partis, qui se sont entraînés pendant 6 mois, et c'est une situation théâtrale formidable, ça.
Bon, le mot terrarium est important, parce que évidemment, il y a aussi des inventions techniques dans les arts qui nous intéressent, nous. Donc l'invention technique de Philippe, qui est de ne pas avoir de théâtre narratif, mais d'avoir une construction qui est en fait plutôt un aquarium, ou un vivarium, ou un terrarium, où, du point de vue classique, il ne se passe rien, mais en même temps, il se passe beaucoup de choses, explore précisément un tournant qui est semblable, et c'est là où il y a un lien, disons, technique avec ce que j'essaie de faire, et c'est pour ça qu'on nourrit dans les deux sens, qui est, au fond, l'invention d'une mythologie, d'une cosmologie, parce que cette question politique... qui a organisé les modernes depuis 3 siècles vers l'horizon de la globalisation, c'est une cosmologie. C'est à la fois toute une définition du sol, une définition des métaphores les plus importantes, ce que n'importe quel anthropologue dirait est une cosmologie. Elle est en train de varier, de se transformer à une vitesse extraordinaire, et on voit bien que là, on est démunis. Parce que même la question de savoir où on est, qui est une question à la fois scientifique et artistique, c'est de dessiner le terrestre sur lequel on est, pose des problèmes, au fond, de cosmologie, très pratique. Et quelle est la métaphore ? C'est pour ça que Inside et Caveland, qui étaient les deux propositions de Philippe pour les deux dernières années, ça dit, ah oui, alors, donc on est dedans. Mais on est étouffé dedans, on n'est pas étouffé. Est-ce que c'est étouffant d'arriver sur Terre ? Ben oui, par rapport au globe, c'est étouffant. Mais ensuite, dedans, est-ce qu'on voit quelque chose ? Ben non, on n'est pas le même type d'éclairage. Toutes ces questions sont des questions qui résonnent. Autrefois, elles auraient résonné artistiques. On aurait dit, oui, mais ça, c'est pas des sciences sociales. C'est des sciences sociales. C'est les plus importantes maintenant. C'est-à-dire la définition du cadre, de l'éclairage, du haut et du bas. Toutes ces questions sont remises en cause, comme on le lit chez les anthropologues quand ils décrivent une cosmologie d'une autre culture. Maintenant, c'est à nous que ça arrive.
Alors, on peut faire l'expérience de cette cave Philippe Ken à la Biennale de Lyon, où vous avez installé dans la sucrière la... J'allais dire le décor, c'est pas un décor, je sais pas comment vous le qualifiez, vous.
Oui, c'est une installation, effectivement, qui s'appelle Caverne. Donc j'étais invité par Emma Lavigne, la curatrice de cette biennale, qui est d'ailleurs baptisée Monde Flottant, aussi un titre qui renvoie à beaucoup de références.
Très belle exposition, très très intéressante.
Oui, je trouve aussi, c'est-à-dire qu'elle a vraiment conçu, notamment à la Sucrière à Lyon, l'exposition comme un paysage, en avouant les connivences formelles, presque, je dirais, de matériaux entre les artistes, du coup de préoccupations. C'est une expo qui, je trouve, traite aussi du non-humain. Il y a très peu de figures dans le choix de cette sélection d'artistes. Et moi, j'y déploie ce paysage de cette caverne qui se gonfle, qui est en fait un grand sac de plastique noir d'une 20aine de mètres, qui aussi est un matériau très précaire, qui parle beaucoup d'abri aussi, de choses du danger. C'est une sorte d'abri nucléaire du pauvre, hein, un sac qu'on le gonflerait. En même temps, ça renvoie aux habitats nomades. Et effectivement, toutes les 15 minutes, elle se dégonfle et elle est aussi comme une baleine échouée dans la galerie et dans ce lieu industriel. C'est un travail sur les espaces. Donc c'est une expérience que vit le visiteur, le spectateur, en rentrant dans un lieu. C'est mon moyen d'expression. Bruno écrit des beaux livres très importants et moi, c'est plutôt mon endroit, c'est-à-dire les espaces, la scénographie et la mise en scène de l'humain à l'intérieur, qu'il soit spectateur ou acteur.
Alors on le disait, on aura besoin de toutes ces idées, ces imaginations, ces fictions, ces dispositifs, ces installations, ces expériences, ces terrariums, tout ça pour trouver où atterrir, pour le décrire, être suffisamment précis. Mais ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'est de la chronologie. On n'a pas beaucoup de temps. Comment vous envisagez cette question du temps, Bruno Latour ?
Ça rend fou. Parce que le problème de la temporalité a complètement changé, puisqu'il s'agit maintenant de partager notre temporalité avec la planète. Par exemple, on ne sait même pas, aujourd'hui il fait encore un temps magnifique, et on ne sait même pas comment on dit ce temps magnifique qui est cruellement magnifique ou qui est catastrophiquement magnifique. Et on n'a même pas
c'est
le
même
terme
plus pour l'été indien, on est au-delà, on est dans l'automne.
On est dans quelque chose qui est beau et paniquant. C'est une situation qui rend fou. C'est d'ailleurs une autre raison pour laquelle il est si important de se lier aux arts, c'est pour pas paniquer. Le problème il y a des affects qui sont pervers, des affects d'angoisse, des affects de paralysie tout simplement, qu'il faut absolument arriver à éviter. Donc c'est pour ça que les arts sont le moyen d'éviter cette sidération en quelque sorte qui est due à la situation dans laquelle on se trouve.
Vous voulez dire un bon usage des émotions, parce que les émotions, elles sont avec les médias, certains types d'émotions sont
pour le moment
encouragées.
Elles sont très perverses. Les émotions politiques qu'on a, c'est l'expression d'opinions, mais des opinions et l'expression de valeurs indiscutables. Ça, qu'est-ce qu'on fait avec des valeurs indiscutables? On fait pas de politique. Ou l'expression et l'étalage de blessures insurmontables. On fait pas de politique non plus avec. Donc, au moins qu'on soit capable de définir des intérêts, mais pour des intérêts, il faut un monde. Et pour décrire ce monde, il faut des outils. Et effectivement, on est en situation de tension temporelle qui fait qu'on aurait dû agir il y a 20 ou 30 ans et qu'on s'aperçoit qu'on est encore très lent à agir maintenant. Et ça pèse sur tout le monde. Et il faut pas, je crois, oublier le caractère psychosocial de la situation dans laquelle on est. Il y a une situation qui est, je trouve qu'on n'analyse pas assez avec des outils qui viendraient de l'ethnopsychiatrie. Comme mon ami Toby Nathan, je pense qu'il y a une vraie situation à la Toby Nathan là, qu'il faut arriver à extraire.
La différence entre la vision des catastrophes et le catastrophisme, c'est-à-dire en reprenant l'image de l'aiguille de Bruno tout à l'heure sur le Nord, Trump indique le Nord, allons au Sud, c'est déjà pas si mal. Prenons ce qu'il y a déjà de positif dans le terrible. Parce que c'est une image intéressante. Il y a quand même une notion de guide lorsqu'on fait l'opposé de ce que quelqu'un nous dit.
Merci Trump, donc, d'une certaine façon. Mais pour savoir quoi en faire, je vous conseille quand même de lire Où atterrir, le livre de Bruno Latour, Comment s'orienter en politique, qui paraît à la Découverte. Vous trouvez la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées sur le site de France Culture. Et puis, on trouvera aussi des indications sur les dates des prochains spectacles de Philippe Quay, notamment La Nuit des Taupes, qui tourne dans différentes villes, à Lyon, à Toulouse, à Strasbourg, notamment à partir du mois de janvier. Prochain, merci à vous deux. C'était La Suite dans les idées.
La Nuit debout des Taupes.
La Nuit debout des Taupes, nous dit Bruno Latour. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet, à la technique aujourd'hui Bruno Mourlan, à la réalisation Anne-Laure Chanel. Dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, vous retrouvez Christine Bernard pour une histoire particulière.